on va commencer donc le séminaire consacré au développement cognitif et développement cérébral. Et je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir mon ami et collègue Luca Bonatti, qui vient spécialement pour nous de Barcelone, où il travaille. Il est membre de l'ICREA, l'Institut de recherche avancée catalan, qui comprend toutes les disciplines, d'après ce que je comprends. C'est un peu comme l'Institut d'études avancées de Princeton, et en particulier les sciences cognitives. Luca Bonatti a une trajectoire exceptionnelle, puisqu'il est formé en philosophie du langage à Milan, et il a fait une thèse de philosophie de l'esprit avec un certain Jerry Fodor, que nous honorons donc aujourd'hui. Et il a ensuite rejoint un laboratoire parisien, celui de Jacques Meller, où nous nous sommes connus il y a une trentaine d'années et où tant de personnes en sciences cognitives sont passées. Et c'est là qu'il a commencé à réfléchir à des études expérimentales et il est devenu très rapidement l'un des chercheurs qui pose les questions les plus élevées, finalement, des questions de philosophie de l'esprit, mais avec des méthodes expérimentales. Et il est devenu chercheur en sciences du développement. Il fait partie de ces chercheurs courageux qui osent poser des questions sur les petits-enfants, sur les bébés de quelques mois. Vous savez que c'est une recherche extrêmement difficile. On s'habitue à l'idée qu'on peut voir la cognition des bébés, mais vous n'imaginez pas toute l'organisation des laboratoires, d'ailleurs toute la difficulté d'arriver à tout simplement convaincre des parents d'amener leurs enfants, d'obtenir des données, rejeter énormément de ces données, souvent un tiers, deux tiers des données vont être rejetées parce qu'il n'y a pas eu assez d'essais, etc. Donc c'est un sacerdoce et c'est d'autant plus extraordinaire de voir un philosophe devenu spécialiste de sciences cognitives et du développement. Et Luca aujourd'hui va nous parler de la logique et du raisonnement. On va voir que le nourrisson possède effectivement des capacités de logique et de raisonnement. Merci beaucoup, Luca.
Bon, merci pour l'invitation. J'essaie de le faire en français. Je vais voir si ça marche. Je ne sais pas combien c'est resté comme trace de mémoire. Je n'ai pas fait les expériences de Stan, donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans mon cerveau sous ça. Donc ça, c'est un travail que je vous présente collectif. Et les personnes qui ont pu contribuer sont ces trois personnes qui maintenant ont terminé leur doctorat ou sont déjà professeurs ou sont en train de terminer, et une série de collaborateurs différents. Alors j'ai fait hommage à mon entraînement philosophique pour vous dire à quoi je suis vraiment intéressé, que ce n'est pas ce dont je voudrais vous parler. C'est un peu des choses comme ça, c'est-à-dire pourquoi quand on va le plus loin possible dans le répertoire archéologique, on trouve des productions extrêmement riches chez l'être humain. Et ben, tout le monde connaît ce type de production, mais il ne faut pas oublier ce type de production, les productions comme un ordinateur, mais aussi les siphons des toilettes auxquels tous les jours il faut rendre hommage. Tout ce type de résultats sont des inventions, des résolutions à problèmes. Et si on regarde ce qu'on a autour de nous, pratiquement tout ce qui caractérise notre civilisation, notre culture, c'est invention. Des habits, aux chaises, à tout ce que vous pouvez penser qui est fait notre être. Donc, d'où ça vient, cette pression énorme des résolutions des problèmes que nous, on voit quand on entend des choses sublimes comme les cours de Stan Dehaene au Collège de France, mais qu'on voit aussi quand on pense à toute la distribution des cultures matérielles. Ben, pour faire ça, mot qui décrit un peu l'être humain, c'est créativité, rationalité, résolution des problèmes, explication causale, culture matérielle et à la fin, science. Hein. Mais tout commence d'êtres qui n'ont pas de science ou n'ont pas, au moins de façon explicite, une capacité de résolution des problèmes. Parce qu'ils ne disent pas grand-chose jusqu'à quand ils vont justement à l'université et encore. Je vous parle comme père. Donc, on a deux images reçues de la structuration d'un esprit d'un enfant. Ça, c'est l'idée du bébé modulaire, un enfant qui est doué d'une série de processeurs spécifiques pour résoudre des problèmes spécifiques. Maintenant, avec des trentaines d'années de recherche, on a déjà une série de ces processeurs qui ont été décrites, dont vous savez, parce que ici aussi, plusieurs personnes qui ont contribué de façon importante à ce type de découvertes ont parlé avant moi. Et après, on a un autre. Donc, c'est un être qui a plein de capacités de résolution des problèmes dont on n'est pas clair quelle est la colle qui met tout ensemble. Et l'autre type d'image reçue sur l'esprit d'un bébé, c'est un bébé statistique, un bébé qui n'a pas peut-être grande possibilité de résoudre des problèmes spécifiques, mais il a une grande capacité d'analyser un signal qui peut être un signal assez bruitant et complexe, comme par exemple un signal de parole qui peut lui venir comme ça. Mais s'il détecte la statistique, il voit à l'intérieur de ce signal complexe, des unités qui ont une cohérence statistique. Ce type de façon de voir un bébé qui a commencé il y a une vingtaine d'années à être popularisé, il est maintenant, si vous voulez, rendu populaire par l'idée d'un deep learning. Ici, vous voyez un robot qui va bientôt sortir commercialement, qui est propagandé comme l'ami parfait pour nous, parce qu'il a des protocoles de deep learning qui lui permet essentiellement d'interagir avec les humains de façon avec succès. Bon, je veux vous présenter une façon de voir l'esprit d'un bébé qui n'est ni l'un ni l'autre, ou qui partage une partie de l'un ou de l'autre, mais ce n'est pas exactement la même chose dans les deux cas. Pour le faire, je veux d'abord vous convaincre qu'il y a des raisons expérimentales maintenant très répandues pour dire que les enfants, les bébés tout jeunes, sont des êtres rationnels qui ont des capacités de résolution des problèmes assez importantes, qui ne peuvent pas être uniquement décrits par des modules, ni non plus par des capacités statistiques, sans un bagage de connaissances très organisé avant. Je l'ai fait un peu historiquement et je commence avec les premiers peut-être articles qui a mis le mot raisonnement en parlant de la cognition des êtres qui ne peuvent pas parler ni ne peuvent pas raisonner de façon explicite. C'est le travail du groupe de Budapest de Gheorghe Gergely et Gergő Szibre qui ont eu cette idée très élémentaire mais très intéressante. Vous habituez un bébé à voir une situation comme celle-ci, dans lequel vous avez un objet essentiellement qui donne l'impression de vouloir aller dans un autre côté avec cette trajectoire obligée par le fait qu'il y a un occlusion. Et après, en phase de test, vous faites deux situations, un dans lequel vous voyez exactement le même parcours physique et l'autre dans lequel le parcours physique est différente. Or, le problème, c'est que ce parcours physique, il n'est pas, il n'est plus rationnel une fois que vous avez enlevé l'occlusion. Autant que le parcours physique direct auquel le bébé n'est pas été habitué serait la solution plus optimale, plus rationnelle pour aboutir à ce que le bébé veut et pense que les objets font ici. Et ce que Gergely et Szibre, dans plusieurs expériences, ont montré, que les enfants sont déshabitués quand ils voient la même scène physique qui maintenant n'est plus rationnelle, et non pas quand ils voient une nouvelle scène physique qu'ils n'ont jamais vue, mais qui arrive à réaliser les buts de la de l'action. Donc ici, vous avez donc le premier cas que je voulais vous présenter. Je vous présente deux autres. Un, c'est le travail qui vient dans les laboratoires de Laura Schultz à l'MIT, et un, c'est du travail qui vient du laboratoire de Lisa Feigenson à Johns Hopkins. Oui, une petite chose, j'ai fait une version de... Je voulais vous dire aussi que cette idée de réaliser des buts, elle est tellement radicale chez les enfants qui, comme ils ont montré Szibre et Gergely, et Vicky Southgate aussi, elle arrive même à résister, à surpasser des violations énormes de la situation physique ou biomécaniquement possible. Donc vous voyez ici une main qui a abouti à prendre une balle, mais en fait, en faisant plusieurs actions biomécaniquement possibles. Et ici, vous voyez une main qui fait un événement biomécaniquement impossible, mais qui aboutit de façon plus directe à réaliser son but. Et ce que Southgate et Chibra ont montré, c'est que les enfants, ils préfèrent, disons, quand ils sont mis en contraste avec un événement biomécaniquement possible, mais moins efficace, ou impossible biomécaniquement, mais plus efficace, ils sont plus disponibles, disons, ils regardent de façon un peu plus bizarre à une main qui fait une chose non optimale. Pour vous donner l'idée de la profondeur de l'idée que les enfants ont d'examiner les buts d'une action. Ça, c'est une expérience assez intéressante et très marrante, faite sur des enfants de 14 mois. Et ça fonctionne comme ça. Vous avez un jouet qui fait des choses sympas, donc quand vous appuyez sur le jouet, il sonne. Et vous avez l'enfant qui est, disons ici, qui approche un jouet très similaire ou qui a un autre jouet très similaire, mais qui est loin. Et l'expérimentateur prend ce jouet et il joue trois fois, il réussit à faire la chose sympa, les jouets, ils sonnent une petite musique. Maintenant, ce que vous faites, c'est vous donner à l'enfant soit l'objet que l'expérimentateur a utilisé, soit un autre objet qui est proche à l'enfant. Et la question, et le problème, c'est malheureusement, dans ce cas, l'enfant commence à jouer avec ses jouets, mais toutes les fois qu'il joue, il n'y a pas de son qui sort. Et la question, c'est quand l'enfant voit ce problème, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense que c'est lui qui n'a pas compris comment l'objet fonctionne, ou c'est que l'objet qu'il a dans ses mains, il est cassé? Donc, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va changer d'objet? C'est-à-dire, ils disent, bon, ben, cet objet est cassé, j'en ai vu un autre. Ou est-ce qu'il les redonne à l'expérimentateur ou à la maman pour voir autrefois comment ça marche? Et je vous montre un exemple de qu'est-ce qui. Ça, c'est les jouets verts. Et comme vous voyez, l'enfant, il les redonne à la personne, les jouets qu'il avait vus être utilisés par l'expérimentateur. Mais quand cet objet est donné, il fait un effort remarquable pour aller chercher l'autre jouet.
Oui.
Pourquoi? Donc, parce que, donc, disons, ce jouet, il avait fonctionné avant chez l'expérimentateur. Ce jouet, c'est nouveau. Et donc, une fois qu'on met en comparaison si l'enfant préfère changer d'agent ou changer d'objet selon le type de jouet qui lui ont donné, c'est clair que la majorité des enfants qui ont eu les mêmes objets que l'expérimentateur avait fait fonctionner avec succès, ils les redonnent parce qu'ils pensent que ben, c'est moi qui n'a pas compris quelque chose. À l'inverse, quand ils ont un nouveau jouet, ils pensent « Non, ce jouet, ce n'est pas cassé, je veux l'autre, même si c'est difficile à les prendre. » C'est un type, disons, de réactions qu'on peut formaliser avec des modèles qui sont très futés. La troisième expérience que je voulais vous mentionner, c'est le travail de Stalin Feigenson, qui montre comme les enfants, non seulement ils sont surpris, ça on le sait depuis longtemps, quand ils voient quelque chose qui ne marche pas comme il devrait marcher, mais ils vont non seulement être surpris, mais ils utilisent la surprise pour tester des hypothèses spécifiques qui leur permettent d'examiner qu'est-ce qui ne s'est pas marché. Et l'expérience fonctionne comme ça. Vous avez des situations dans lesquelles utilise...
Look at this. Watch this.
Des cas typiques qu'on sait que les enfants regardent avec surprise. Donc la question et tout. Disons, tous les travaux que les gens qui ont travaillé dans les domaines de la cognition infantile ont fait avant cet article s'arrêtaient là. Ils voyaient, disons, oh, les enfants ont une idée des supports parce qu'ils sont surpris que l'objet reste au début, sans tomber. Ou bien des violations, comme par exemple celle-ci, une occluseur. Et il y a une violation de solidité, donc le même objet que
vous avez dit. Look at this. Watch this.
Maintenant, il est révélé comme avoir passé dans notre domaine. Alors, on sait depuis longtemps que les enfants sont surpris quand ils voient cette scène, parce qu'ils ont une image du monde particulière. Ils ont une connaissance de la physique naturelle assez sophistiquée. La question qu'ils ont posée Stalingrad, une société élémentaire, et dit, bon, d'accord, maintenant, je donne cette jouet aux enfants, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Et ils ont cherché de voir si les enfants font tomber cet objet ou font cogner l'objet sur, un endroit, selon s'ils si avaient vu une violation de soutien ou bien s'ils avaient vu une violation de solidité. Et donc, ce que Stalingrad et Feig ont montré, c'est que les enfants, à 12 mois, 14 mois, ils ont déjà une hypothèse spécifique qu'ils cherchent de tester pour voir pourquoi l'objet n'a pas fonctionné comme leurs a priori sur le fonctionnement de l'espace et des objets matériels auraient dû suggérer. Donc, tout ça, encore une fois, montre des capacités très sophistiquées de tester des hypothèses, de faire des propositions sur pourquoi les choses fonctionnent et ne fonctionnent pas, qui est difficile voir comme les enfants pourraient avoir si on pense à un enfant simplement, disons, modulaire ou si on pense à un enfant simplement statistique. Alors, si on veut voir quel mot décrit les types de résultats de cette expérience, on pourrait dire que les bébés comprennent les objectifs et les intentions, ont des attentes, ils font des hypothèses, ils apprennent des choses qui ne passent pas selon l'hypothèse, ils testent les causes des échecs et donc ils explorent, et j'utilise ce mot cette fois avec justification, rationnellement, des alternatives. Et la question qui me passionne, c'est celle-ci, sur la base de quel mécanisme est possible qu'un enfant fasse des hypothèses rationnelles, que les pensées aient une génération très structurée des propositions qu'on exprime dans un langage dont on ne connaît pas la syntaxe, mais qui est disponible même quand les enfants ne peuvent pas parler ni communiquer avec nous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je cherche de mettre ma petite contribution pour dire quelque chose sur quelles sont les primitives de cette pensée élémentaire, comment elles sont combinées, comment est-ce que les enfants peuvent les utiliser pour raisonner, pour prédire le futur. Non? Et pour le faire, j'ai essayé, avec mes collaborateurs, d'étudier qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que les enfants peuvent faire sans aucune expérience, donc sans aucune statistique précédente, sur des hypothèses ou des probabilités des événements futurs ou sur des hypothèses sur qu'est-ce qu'il devrait se passer s'il y avait une logique dans les choses que les enfants voient. Et je vous donne donc quelques exemples de comment on a essayé d'affronter ce problème. Le premier type d'expérience qu'on a fait, on a essayé d'enseigner aux enfants essentiellement à jouer au loto. Donc, on a enseigné à des enfants, sans avoir aucune expérience précédente, des situations comme celle-ci, dans lesquelles il y a deux classes d'objets représentés en proportions différentes, et dans certains types de conditions, il y a un objet qui sort de la classe moins représentée ou un objet qui sort de la classe plus représentée. Et la question ici, c'est est-ce que les enfants ont une idée que cet événement est plus improbable que cet événement ? Sans avoir jamais joué avec ce type de situation. Et la réponse qu'on a eue, ça c'est des temps de regard à la situation finale, c'est que oui, les enfants regardent plus longtemps un événement improbable qu'un événement probable. Mais en fait, ça pourrait être pour plein de raisons. Par exemple, c'est plus sympa de regarder une chose qui a, disons, une structure gestaltique un peu plus compacte, donc tous les bleus ici et les jaunes dehors. Non? Donc pour voir que les enfants, effectivement, penser à la structure qu'ils voyaient et non pas à des éléments de surface, ce qu'on a fait, on a transformé, avec simplement mettant une barre, l'action de l'événement probable dans un événement impossible et l'événement improbable dans le seul événement possible. D'accord ? Donc ici, s'il y a un jaune qui sort, c'est impossible parce qu'il aurait dû passer la barre, mais ici, s'il y a un bleu qui sort, c'est la seule chose qui pouvait passer. Et ce qu'on a montré, c'est que les enfants inversent leur type, disons, de réaction, bien qu'ils regardent la sortie de l'improbable plus longtemps que le probable, quand les mêmes objets sortent dans une situation qui maintenant est devenue physiquement impossible, ils inversent leur type de vision. On peut aller un peu plus loin, on peut se poser la question, quel type de calcul est effectué ? Est-ce que les enfants regardent les rapports entre des classes où ils envisagent des possibilités futures. Donc, ils pensent qu'il y aurait le jaune qui pourrait sortir, l'autre jaune qui pourrait sortir, l'autre jaune ou le bleu. Non? Et pour le faire, on a utilisé ce système. Dans une condition, les enfants, vous voyez, là, je coupe les films aux plus petites pour la même chose qu'avant. Donc, mais maintenant, la sortie, c'est une classe normale, ou bien une situation dans laquelle on met plein d'objets, le rapport est le même, mais la sortie, la sortie est la même. Et ce qu'on a montré, c'est que les enfants semblent, on parle d'enfants de 12 mois ici, semblent être capables d'être surpris par un événement improbable quand la quantité est petite, mais ils n'ont pas d'attente quand la quantité est grande. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'attente parce qu'il y a trop d'objets ou les stimulus sont trop complexes. Parce que si on modifie tout simplement cette situation en mettant une information de densité, donc on fait les objets un petit peu plus grands, oui, et c'est important de voir qu'ici, cet objet, à la fin de ce film, il se déplace soit vers le haut ou soit vers le bas. Donc en fait, dans une situation tout simplement comme celle-ci, en fait, les enfants sont très capables de raisonner. On a deux conditions dans lesquelles, juste à la fin de cette situation, les objets jaunes, les moins représentés, ils sont en haut. Donc, disons, cette bleue, ils font une espèce de barrière qui rend difficile aux objets de sortir, à différence de ces situations dans lesquelles c'est beaucoup plus simple qu'un objet jaune puisse partir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets bleus qui le bloquent. Eh bien, dans ce cas, les enfants savent très bien que ça, c'est une situation plus complexe que celle-là. Donc, ce n'est pas une question de difficulté à processer les stimuli, c'est une question vraiment de, on pense, de capacité des enfants de raisonner sur une série de données différentes, dont, par exemple, un pourrait être la possibilité d'envisager des états futurs un par un et de compter ces états pour voir quel est l'état plus probable ou moins probable. Rien de ce que j'ai présenté dépend de cette situation physique spéciale. Ça, c'est une autre situation qu'on a testée, dans laquelle, comme vous voyez, la probabilité est tenue non pas par la quantité d'objets, mais par la quantité de sorties qu'un billard pourrait avoir. Et ici, vous voyez notre enfant qui regarde, ça, ce sont des expériences faites avec un eye tracker. Donc ici, les points bleus que vous pouvez voir, c'est, disons, la position moyenne de l'enfant qui regarde, et c'est l'enfant qui décide quand il veut regarder ou pas. C'est-à-dire, quand l'enfant ne regarde pas, on bloque la situation et on la recommence quand l'enfant regarde. Donc, plus ou moins, la chose fonctionne comme ça. Toutes les fois que l'enfant regarde, on recommence notre film. Et la chose importante ici, c'est celle-ci. À ce moment, l'objet est au centre. Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant maintenant? Est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il s'attend que cet objet doit sortir de la partie dans laquelle il y a plus de sorties? D'accord? Et ce qu'on a montré, donc on a comparer ces situations avec une situation, donc je vous montre simplement la partie finale, comme vous voyez, l'objet est au centre, non, et là, après il y a ces sorties. Et en fait, oui, les enfants sont très surpris quand l'objet sort du côté dans lequel il n'y a qu'une sortie, plutôt que dans les côtés dans lesquels il y a plusieurs sorties. Ça pourrait encore une fois être un effet perceptif, parce que ça, c'est peut-être les enfants, simplement, ils préféraient les voir ici, parce que ça, c'est plus riche perceptuellement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé cette situation avec une situation dans laquelle on a mis des morceaux de bois virtuels là-dedans. D'accord ? Et on a vu si les enfants, quand ils voient ces situations, sont encore, disons, plus surprises quand ils voient une sortie par ici. Et la réponse est non. Ils ont très bien compris que ce n'est pas la richesse du stimulus qui leur donne une réponse particulière, mais ce qui est possible, impossible, probable, improbable. La chose, donc, ça, c'est toujours des temps de regard dans une situation finale, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les enfants utilisent cette information en ligne pour faire des prédictions sur ce qui peut se passer. Et pour les faire, dans ces situations, on a essayé de voir, dans cette situation particulière, il y a une occlusion. Dans les exemples que je vais vous montrer, pensez à cette situation dans laquelle, dans certains types de cas, les trois sorties sont ici. Et dans d'autres types de cas, simplement, on flippe cet cadre. Et donc, l'objet que je vous fais voir, il va sortir toujours par la droite, mais quelquefois, cette cadre avait une sortie, quelquefois, il y avait trois sorties. Et la question, c'est, il y a un moment dans lequel cet carré vert couvre tout, donc tout ce qu'ils font, les enfants, doit être en mémoire par rapport à ce qu'ils ont compris de la situation précédente. Est-ce qu'ils bougent ses yeux plus vers la droite quand il y a trois sorties, plutôt que quand il y en a une? Donc, est-ce qu'ils anticipent, dans ce moment, que c'est une seconde, qu'il y a un particulier événement qui va se passer? Et ce que vous voyez ici, Donc, c'est pendant cette seconde occlusion. Ça, c'est les temps avant la sortie jusqu'au moment dans lequel l'objet sort. Et ce que vous voyez ici, c'est la position moyenne des yeux des enfants dans cette petite seconde, donc avant qu'ils ne voient rien qui pourrait leur indiquer si leur hypothèse est correcte ou pas. Et comme vous voyez ici, au début de l'occlusion, ils sont au centre, mais dans cette seconde et demie, ils ont la tendance à bouger leurs yeux plus vers la droite. Quand ils avaient vu que vers la droite, il y avait trois sorties, plutôt que quand il y en avait une. En indication, donc, qu'avant, après la sortie, ils sont plus surpris quand ils voient l'objet sortir, quand il y a moins de sorties, mais pendant la préparation du moment dans lequel ils savent que l'objet sort, ils se font des attentes très précises, ils prédisent les probables en considérant la distribution des possibilités. Bien, donc, c'est possible faire voir que ce type d'événements que je vous ai montrés peuvent être prédits par un modèle bayésien assez simple, dans lequel on assume que les enfants ont des idées sur la solidité et la continuité des mouvements, que le mouvement est essentiellement, disons, aléatoire, et ils vont inférer les prochains états futurs sur la base de ce type de mouvement. Ils vont compter les probabilités de cette possibilité future dans les limites de très peu de probabilités. Et en considérant la surprise comme la subtraction de la probabilité du résultat, on peut prédire de façon quantitative combien les enfants peuvent regarder une situation ou l'autre dans ce type de situations physiques et élémentaires. Bien. Donc, j'espère de vous avoir convaincu qu'il y a des raisons pour penser que les enfants non seulement font de la statistique, mais ils ont aussi des idées très précises de qu'est-ce que c'est probable ou improbable, indépendamment de l'expérience précédente. Ils n'ont pas besoin de collecter beaucoup de situations pour avoir des idées très précises sur ce qui va se passer par rapport à la probabilité. Et la question que je vais me poser, c'est d'où vient ce sens de la probabilité chez les nourrissons? Et je m'inspire à une théorie d'un théoricien de la probabilité qui, essentiellement, il disait « La probabilité, c'est une intuition. Cette intuition vient de où ? Elle vient essentiellement de la capacité de concevoir possibilités futures. » Donc, j'essaie de dire, bon, imaginons que l'enfant est Dieu. Comment est-ce que Dieu pourrait savoir, comment Dieu pourrait jouer au dé ? On pourrait penser à un Dieu qui tire les dés et il collecte tous les résultats pour voir quelle est la probabilité qu'ils sortent d'eux. Non ? Ça, c'est un Dieu statistique, si vous voulez le mettre comme ça. Mais on pourrait aussi penser à un Dieu qui pense aux possibilités qu'un objet permet d'avoir sans avoir aucun résultat, avec un principe d'indifférence, et dit, parce que c'est également probable qu'il y a cette possibilité de sortie, je m'attends que les deux sortent deux fois sur six, et non pas plus et non pas moins. D'accord ? Donc ça, c'est un Dieu qui n'a pas besoin d'expérience pour prédire le futur, pourvu qu'il sache comment se fait l'espace logique qu'un événement vous permette d'envisager dans le futur. Donc c'est un peu peut-être l'idée que le sens de la probabilité viennent chez les nourrissons par un sens naturel de la logique, de la possibilité. Et c'est un peu, disons, la transformation d'une vieille idée du premier Wittgenstein, que c'est cette idée que les faits ne sont pas les faits que vous voyez ici, mais c'est l'espace possible de ce qui peut se passer, étant donné une situation. Bien. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de décrire quelles seraient les opérations de base logique disponibles chez les enfants qui pourraient donner, entre autres choses, aussi la possibilité d'envisager la probabilité future. Et pour le faire, on a utilisé essentiellement la seule idée que ça nous est venue dans la tête, que ce n'est pas vraiment génial, c'est de prendre des théories qui ont été développées sur le langage, qui disent qu'il y a certains types d'opérations de base qu'on peut faire quand on raisonne linguistiquement, comme par exemple l'instanciation de si tous les objets sont X, A doit être aussi X, les éliminations des alternatives, il y a A ou il y a un B, il n'y a pas un A, donc il doit y avoir un B, ou il y a s'il y a A, donc il y a B, A, donc B. Des choses très élémentaires, mais qui ont deux propriétés très, très importantes pour nous. Si on raisonne en utilisant ce schéma élémentaire, il faut qu'on ait une forme logique. Il faut qu'on décrit une situation en pensant à une forme particulière et des règles d'inférence nous permettent de dériver à partir d'une forme logique une inférence particulière, une conclusion. Donc il y a toujours une différence entre ce qui est la forme et l'inférence en elle-même. Et je vais vous ennuyer beaucoup en me concentrant sur ce type de schémas, les syllogismes disjonctifs. C'est élémentaire, mais c'est fondamental parce que c'est le type de raisonnement que Sherlock Holmes ferait quand il doit décider qu'il y a plusieurs hypothèses, il faut éliminer une par une. D'accord ? Et donc, j'essaye de voir si on peut étudier la logique avant le langage et en utilisant cette stratégie de base, que c'est des principes impossibles. C'est-à-dire, on prend une inférence logique qu'on connaît très bien si on regarde le langage, et on la transforme dans une scène qui contient la même information logique, mais il n'y a pas des éléments de langage. Et la raison pour faire ça, c'est qu'on veut tester des êtres qui n'ont pas de langage de façon, disons, explicite. Bon, il n'y a pas d'humains qui n'ont pas de langage à partir de ce qu'il y a en utérus. Mais, disons, qu'ils ne peuvent pas parler. J'essaie de voir si, quand ils voient des scènes, ils font néanmoins des pas de raisonnement. Et la raison pour laquelle je veux les faire, c'est que nous, on a une énorme connaissance de la capacité des adultes de raisonner ou de faire des erreurs quand on présente des éléments présentés par les langages. Mais l'intuition que j'ai, et que j'espère que vous partagez avec moi, c'est que nous, on raisonne toujours. On raisonne quand on marche, on raisonne quand on rêve, on raisonne quand on fait des choses complètement différentes. Et donc, la pression pour raisonner, c'est largement plus forte de ce que les langages peuvent véhiculer. Donc, pour les faire, on a utilisé ces systèmes, on a créé des couples différentes. Ça, c'est des objets qu'on a utilisés avec nos expériences, qui, comme vous voyez, sont assez différentes, mais ils ont une propriété commune, c'est-à-dire la partie en haut est égale. De sorte que si vous voyez l'objet caché partiellement, vous ne pouvez pas savoir si c'est l'un ou l'autre. Donc, on essaie de mettre les enfants dans des situations d'incertitude. Et on fait des scènes, on présente à des enfants des scènes comme celle-ci, dans lesquelles il y a un moment dans lequel les enfants ne peuvent pas savoir quel objet il est, mais là maintenant, oui, on peut savoir. D'accord ? Donc, s'ils font une inférence logique, à ce point-là, ils doivent s'attendre qu'ici, il y a une fleur. D'accord ? Et on compare cette situation avec une situation dans laquelle, encore une fois, il y a une incertitude, il y a une résolution de l'incertitude, si on peut faire un raisonnement, mais en fait, il y a une violation. Et ce n'est pas important comme la violation il se passe de façon, physique, parce que cette situation peut être transformée, on peut donner la violation. Déjà, on a montré que les enfants, quand ils voient ce type de situation, sont surprises quand ils voient une situation finale qui est incohérente avec la possible inférence disjonctive. Mais ce n'est pas important comment on présente cette inférence. Ici, voilà un autre système très similaire dans lequel, vous voyez, on ne voit jamais quel objet il est là, mais là, maintenant, on sait que cet objet doit être l'autre objet de la couple. Non mais dans cette situation, donc, encore, on ne sait pas. Là, maintenant, on sait. Et donc, ici, sans voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on devrait être surpris quand on voit cette situation. D'accord ? Donc, ici, on ne voit jamais ce qu'il y a dans la couple, dans la coupelle, dans les verres, mais on devrait être surpris si on a fait l'inférence logique qu'il ne pouvait pas être l'autre objet. Et on a montré que même dans ce type de situation, les enfants, à 19 mois, donc quand on monitorise toujours ces deux âges parce qu'ils sont assez intéressants. Ça, c'est un âge dans lequel les enfants commencent à sortir leurs premiers mots. Et ça, c'est un âge dans lequel les enfants ont déjà, disons, une capacité de communication assez importante, disons, par rapport au module que les enfants peuvent faire. Non ? Et ce n'est pas important à quel âge. Dans les deux cas, les enfants sont surpris quand ils regardent des situations qui sont incohérentes avec une potentielle inférence logique. D'accord. Alors, ces scènes sont élémentaires, mais ils ont des propriétés qui, il me semble, intéressantes. On peut décomposer la scène dans des moments différents si on pense à ces situations comme des situations qui ont une description logique particulière. Donc, regardons-les ensemble une seconde. Ici, il y a une situation dans laquelle il y a deux objets qui sortent. Appelons cette situation la représentation des événements. Ça, c'est le moment dans lequel les enfants pourraient faire une hypothèse disjonctive. On ne sait pas. Donc, ils pourraient créer une forme logique particulière. Ça, c'est le moment dans lequel les enfants pourraient déduire qu'est-ce que c'est l'objet là-dedans. D'accord ? Et à la fin de ça, il y a un moment dans lequel on pourrait vérifier si l'inférence qu'ils ont faite était correcte ou pas. Donc, ce sont des chaînes élémentaires, mais qui ont cette capacité de pouvoir être décomposées en des petits morceaux selon les types, disons, des natures logiques de la description d'une chaîne qu'on pourrait donner. Et la question qu'on veut essayer de, sur laquelle on veut essayer de travailler, c'est est-ce qu'on peut donner une... qu'on peut suivre, décortiquer qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant à chacun de ces étapes, avec des méthodes pour l'instant complètement comportementales. Or, vous voyez que ces scènes peuvent être aussi transformées de façon simple pour éliminer chacun de ces étapes séparément. Par exemple, je peux présenter une scène dans laquelle j'élimine cette partie-là, tout simplement en faisant comme ça. Maintenant, les enfants voient quel objet est, à l'intérieur de ce conteneur. Et donc, il n'y a pas besoin, quand cet objet sorte, de faire n'importe quoi que ce soit du point de vue logique. D'accord ? On peut aussi éliminer la partie vérification, par exemple. Donc ici, il n'y a pas d'inférence, parce qu'on sait quel objet est dans la coupe. Ou on peut aussi, par exemple, maintenir qu'il n'y a pas d'inférence, parce que les enfants ne peuvent jamais savoir quel objet sera dedans. D'accord ? Par exemple, en faisant la situation suivante. Ici, vous voyez, vous ne savez pas quel objet, mais il y a de l'herbe qui pousse. Donc maintenant, quand l'objet sort, on ne peut pas savoir lequel. Donc on peut modifier de façon très élémentaire toutes ces scènes pour, faire entrer une étape d'inférence ou faire éliminer une étape d'inférence. Donc ce que je vous montre ici, donc, c'est une série d'expériences dans lesquelles, ça c'est la scène que je vous ai montrée tout à l'heure, on a deux objets, on a une occlusion, on a une phase, disons, de forme logique, et on a une phase dans laquelle on pourrait faire une déduction. Et on compare ces situations dans une situation dans laquelle les enfants n'ont pas besoin de faire une inférence, parce qu'ils savent déjà, avant d'arriver à la phase de déduction potentielle, quel est l'objet qui est dans la coupelle. Et après, la situation aboutit avec une scène finale qui peut être soit consistante ou soit inconsistante avec une potentielle inférence. D'accord ? Donc, ce qu'on va voir maintenant, ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font les enfants ici, mais on essaie de voir un peu, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe quand les enfants voient cet objet sortir pour une seconde et demie ? D'accord ? Et pour le faire, on étudie avec une certaine quantité de détails les comportements cumulomoteurs que les enfants pourraient avoir lors d'une inférence. Plus ou moins, la chose passe comme ça. Donc ça, c'est une situation dans laquelle un enfant regarde notre scène. Et voilà. Là, le moment crucial pour nous, c'est celui-ci. D'accord ? Cet moment particulier. Et après, il y a la partie de la phase des surprises. D'accord ? Et je vous montre maintenant le comportement oculaire des enfants dans la phase de déduction potentielle, c'est-à-dire dans ce petit moment dans lequel il y a cet objet qui sort. D'accord ? Pour le comprendre, je vous donne deux types des indices de conduite, de comportement. Alors, vous voyez ici, ça serait, imaginez ça, l'écran. Et ce que vous voyez ici, c'est les points sur l'écran. Dans les graphiques que je vais vous présenter, on prend cette paramètre, cette dimension, et on la met en verticale. Donc, on prend, disons, les points de l'écran et on les met ici. Et ici, vous voyez où les adultes, les enfants de 19 mois et les enfants de 12 mois regardent la scène selon si ils avaient la possibilité de faire une inférence ou non. Et ce que vous voyez ici dans les trois cas, c'est que tous les sujets qui ont attesté, ils ont la tendance de déplacer les yeux un petit peu plus vers l'occluseur quand ils doivent faire une inférence dans cette petite seconde. Ça, c'est comme dire, par exemple, que si vous voyez ça, c'est comme dire que dans la condition de non-inférence, les enfants et les adultes s'arrêtent à regarder cet objet. Dans la condition dans laquelle ils peuvent faire une inférence, ils se déplacent un peu plus vers la droite, en indication qu'ils sont en train de faire un processus mental différent dans les deux cas. Là, c'est une autre façon de voir ce type de situation. Et je vous montre aussi la distribution des points de regard dans un cas dans lequel les enfants peuvent faire une inférence à 19 mois. Vous voyez qu'il y a une concentration distribuée dans les deux points focaux de l'écran. Et c'est beaucoup plus diffusé ici, d'accord ? Quand il n'y a pas de déduction, donc ce n'est pas spécialement intéressant de regarder ce qui se passe ici. À 12 mois, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a... Oups, je suis désolé. il y a plus de concentration. Oups, voilà. Je suis désolé. S'il y a plus de concentration dans les deux éléments de la scène quand il y a la possibilité de faire une inférence que quand l'inférence n'est pas nécessaire. Bien, mais la position des yeux sur un écran dépend de comment vous faites la scène. Donc, on a essayé de regarder s'il y avait un autre indice comportemental qui nous disait si les enfants étaient en train de faire des choses particulières à ces moments. Et ce qu'on a fait, on a utilisé la dilatation pupillaire. On a regardé plus ou moins si, à ces moments dans lesquels on peut faire une inférence, la paupière des enfants a la tendance à s'ouvrir un petit peu plus, ce qui est un indice de mémoire de travail ou, disons, d'efforts cognitifs, de toute façon, chez les enfants. Et ce que vous voyez ici, et encore une fois, je vous présente des données d'adultes de 19 mois et de 12 mois, c'est le même phénomène. La paupière des adultes de 19 mois et de 12 mois, dans des moments différents, avec des temps différents, ce n'est pas important ce détail, elle a toujours la tendance à s'ouvrir un petit peu plus si, pendant cette petite seconde, quand on peut faire l'inférence. C'est comme dire que, disons, ce qui se passe, c'est plus ou moins une chose comme ça. Non seulement, disons, il y a un moment dans lequel la concentration des regards s'est déplacée un peu plus, mais, disons, les enfants ouvrent un peu plus la paupière quand ils sont en train de regarder la scène, la partie de la scène d'objet, que c'est la moins intéressante. Donc, a priori, ça devrait être le contraire. D'accord ? Bien. Tout ça, encore une fois, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de voir si ça, c'est des processus naturels qu'on utilise dans les moments dans lesquels on prédit ou si ce sont des processus post-hoc. Et pour le faire, on a essayé de montrer que c'est ces moments de déduction qui déterminent la surprise que les enfants donnent à une scène finale. Donc, selon ce qu'ils font à ces moments ici, ils regarderont la scène finale plus ou moins, en indication que c'est le moment de la déduction qui détermine le type de représentation que les enfants se font de ce qui se passe. Et pour le faire, on a étudié les stratégies de balayage dans cette petite seconde dans laquelle il y a, disons, la sortie de l'objet qui pourrait permettre de faire une inférence. Et l'idée, c'est la suivante. Imaginez donc ce moment dans lequel vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a ici, mais vous voyez cet objet sortir. Est-ce que vous avez la tendance à faire un peu, disons, ce type de déplacement de droite à gauche sur les deux objets quand vous avez l'information nécessaire et suffisante pour déterminer l'identité de cet objet. Et ce qu'on a montré, c'est que oui, la quantité d'essais dans lesquels les enfants déplacent leurs yeux pendant cette seconde est supérieure dans la condition d'inférence que dans la condition quand ils ne doivent pas faire d'inférence. Mais non seulement ça, cette quantité prédit combien ils regarderont à la fin une scène surprenante. Donc ici, vous avez des différents indices comportementaux, la position des yeux, les changements pupillaires ou la proportion des essais avec balayage et combien ils regardent à la fin une scène incohérente du point de vue logique. Et quand il y a une inférence, ça, c'est un bon prédicteur. Disons, par rapport aux données des enfants, c'est toujours une très bonne prédiction. Mais quand les enfants ne doivent pas faire d'inférence, ça ne sert à rien ce qu'ils font dans ces périodes parce qu'il n'y a rien à faire. Bien, donc tout ça, c'était pour vous dire que on a des évidences pour dire que dans cette phase potentielle de déduction, la scène finale, la réaction à la scène finale dépend de ce que les enfants font ici. C'est un peu comme dire, par exemple, que dans ce cas, ils doivent arriver à une conclusion parce qu'il y a l'information suffisante pour le faire. Donc, ils dilatent la pupille, ils font du balayage de la scène, et après, c'est une surprise à la fin. Mais ici, quand il n'y a pas d'inférence, tout ce qui se passe ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, ils sont surpris quand ils voient une chose impossible, mais pas parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier dans ce moment. Ce n'est pas important non plus que les enfants soient surpris, donc on a essayé de tester, on est en train d'essayer de tester la généralité de ce type de comportement. Donc on utilise une situation dans laquelle il n'y a aucune surprise. Là. Donc le but des enfants, maintenant, ça s'est reconstruit, donc ce n'est pas parfait.
Hola, vamos a jugar.
Okay. Là maintenant, les objets font des bruits différents, d'accord. Voilà le moment d'inférence. D'accord. Et maintenant,
hola. ¿Dónde me escondo? ¿Puedes encontrarme?
Il y a deux fois que l'objet caché disent où est-ce que je suis. Et ce qu'on a regardé est... Bon, ça c'est simplement parce que l'enfant reste dans... on a regardé à ce moment dans lequel la voix dit, donc, cette, comment ça s'appelle, hide and seek kind of game, si les enfants ont la tendance à regarder où l'objet devrait être s'ils ont fait l'inférence. Et ce qu'on a montré, c'est que dans, ça, c'est les deux moments dans lesquels il y a les voix qui sortent, et ça, c'est la position moyenne des yeux sur l'écran. Et comme vous voyez, quand les enfants ne doivent pas faire une inférence, ils se déplacent tout de suite où l'objet c'est. Quand les enfants doivent faire une inférence, dans les deux moments dans lesquels il y avait la possibilité de faire une inférence, ils ont la tendance un peu plus tardive, comme s'ils avaient fait un raisonnement, à regarder sur les côtés dans lesquels l'objet, par exemple le visage, devrait être. D'accord ? Ça, c'est une indication qu'il n'y a pas besoin que les enfants soient surpris de quoi que ce soit. Ils utilisent vraiment ce type de stratégie pour arriver à prédire ce qui se passe. Et ils le font sur la base, probablement, d'un raisonnement logique élémentaire. Donc, là, maintenant, je vous présente un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Si on regarde ce qu'ils font les adultes, mais même les enfants, quand on commence à interagir avec nous, des erreurs, on en fait plein. Et la question, c'est si on a raison qu'il y a une base naturelle de la logique qui permet de tirer des inférences, mais nous faisons des erreurs quand même, pourquoi on les fait? Et ce qu'on est en train d'étudier, je ne sais pas si j'ai bien traduit en français, c'est que, en fait, les problèmes ne viennent pas des structures mentales, mais ils viennent d'une complexité qui n'a pas été évaluée correctement jusqu'à maintenant, entre comment nous empruntons ces structures logiques et on les fait rentrer dans cet habit qu'on utilise quand on parle. Quand on parle, on utilise plein de concepts. Quelquefois, ces concepts expriment bien la situation de notre pensée. Quelquefois, on ne trouve même pas les mots. Eh bien, quand on parle, quand on fait, disons, des raisonnements logiques, c'est la même chose, on ne trouve pas les mots. Et je vous montre les phénomènes, comme ça a été montré par un article récent qui vient du laboratoire de Susan Carey. Je vous montre une situation linguistique qui est équivalente à ce que vous avez présenté, mais en fait, elle ne donne pas les mêmes résultats. Ici, on a des enfants beaucoup plus vieilles, donc on parle d'enfants de 24 mois.
Okay.
Ici, on dit essentiellement. Okay. Ça, c'est un bon enfant. D'accord? Donc, on ne dit pas. On ne dit pas là. Vous voulez faire écouter notre xylophone? Et donc, en fait, dans ce cas, on donne la même information. Il y a un objet qu'on ne sait pas où c'est à droite et à gauche, mais on dit linguistiquement, il n'est pas là. Donc, la chose raisonnable, c'est que l'enfant regarde dans l'autre côté. Mais en fait, la majorité d'enfants, ils font comme ça.
Maria, non, il est dans le camion. Puedes encontrarla.
Il n'est pas dans le camion.
¿Dónde está la pelota, María?
Voilà. Donc, en fait, ce que Roman Feynman et collègues ont montré, c'est que même à 24 mois, avant 24 mois, donc un âge très avancé par rapport à ce que nous avons testé, les enfants qui ont la même tâche essentiellement de façon linguistique, ils échouent. Donc, ils vont à chercher, disons, la balle dans les camions quand on leur dit qu'il est dans les camions. Mais ils vont toujours à chercher dans les camions quand on leur dit qu'il n'est pas dans les camions, comme s'ils ne regardaient pas la structure logique des surfaces, ils regardent simplement quels sont les derniers mots qu'ils ont écoutés pour aller chercher. Et nous, ce qu'on a fait, on a montré que, donc ça c'est le niveau d'hasard, et comme vous voyez, ils sont au-dessous de l'hasard dans la situation dans laquelle ce n'est pas important si il n'est pas là ou est-ce qu'il est là, oui ou non. D'accord, ce n'est pas important la partie des surfaces, mais ils échouent dans ces situations. Et nous, on a trouvé que ce phénomène, c'est aussi dépendant de la langue, parce que même dans un âge dans lequel les enfants américains, ils sont capables de résoudre cette tâche, les enfants espagnols, ils ne les font pas. Comme s'il y avait, parce que bien évidemment les enfants ont la même, disons, structure mentale, comme s'il y avait une difficulté qui est donnée par la langue qu'on est en train d'apprendre. Et en fait, on a des évidences que collectée en Hongrie, qui est des enfants de 18 mois hongroises, résout la même tâche que des enfants de 27 mois espagnols ne résoutent pas. Pourquoi? Parce qu'en hongrois, il n'est pas là, il est réalisé lexicalement avec un seul mot. Cela pourrait aider l'enfant à voir effectivement quelle est la nature de la représentation linguistique et sa relation avec la situation de la tâche. Bien, là, pensez un peu au langage naturel. Et par exemple, on se concentre sur la « ou » et on regarde maintenant dans quelle situation on utilise un foncteur comme celle-ci, très simple. Il est lundi ou mardi, d'accord? Lundi. Donne-moi l'argent ou jetez tout. Est-ce que, ici, on utilise « ou », mais ce n'est pas un « ou », c'est une implication, d'accord? Je veux des pommes ou un gâteau, d'accord? Soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas lequel. Des pommes ou des gâteaux, je n'en veux pas. Je veux ni l'un ni l'autre. D'accord, la négation a une opération particulière. L'implication a une opération particulière sur la « ou ». Si on a de la chance, nous allons embaucher Marie ou Suzanne. Ça, c'est des exemples qui viennent par le travail de Gennaro Chierchi, qui est un linguiste qui est en train de travailler exactement sur ça. Ici, on dit ben, on est en train d'embaucher quelqu'un. Si on a de la chance, on pourra prendre soit l'un, soit l'autre, mais les deux, c'est exclu. Mais si on met le même type de structure à l'antécédente, si nous embouchons Marie ou Suzanne, on aura de la chance. L'implication, c'est qu'on pourrait embaucher les deux et ça, on serait encore plus chanceux. Hein? Donc, simplement le fait qu'on déplace la même structure logique à droite ou à gauche d'une implication ou qu'on la mette à l'intérieur d'une structure dans laquelle il y a une négation, change l'interprétation. Et le problème fondamental, c'est comment il fait l'enfant à découvrir tout ça. Ce n'est pas évident. La représentation logique linguistique d'un foncteur logique très élémentaire comme la disjonction change de langue à langue et elle est sujet à des phénomènes qui, une fois, on pensait être pragmatiques, qu'ils existent, mais maintenant on pense être aussi dépendant de la grammaire, donc des phénomènes structurels. Et le problème, donc, c'est que l'appareillement entre une structure logique élémentaire comme celle qu'on a montrée et une représentation élémentaire de cette phrase de langage, ce n'est pas évident. Bien, donc je voulais vous dire qu'on est là, dans cette recherche. Je voulais dire aussi qu'on a des enfants qui sont largement plus rationnels que les expérimentateurs, comme vous pouvez voir dans cette vidéo avec laquelle je vais terminer mon... OK. Où est-ce que c'est la balle? Pourquoi est-ce qu'un enfant devrait être intéressé à la petite balle cachée dans les camions quand il y a un camion jeune, très beau? Et voilà la façon dans laquelle on travaille dans ce type d'expérience. Ça, c'est un exemple que l'expérimentateur, il est là à penser, ben, on va faire un beau jeu dans lequel l'enfant est intéressé à chercher une balle. Mais l'enfant pense à autre chose, souvent largement plus rationnel du point de vue de la métrique des coûts et bénéfices, cost and benefits, que n'importe quel expérimentateur très futé, comme par exemple le groupe de Susan Carey ou les nôtres un peu moins, aurait pu imaginer. Voilà, je termine avec une foire aux questions pour vous donner, disons, un peu le type de questions que cette recherche est en train de chercher de développer. Ça, c'est la question fondamentale, comme je la vois maintenant. Imaginons qu'on a effectivement des structures élémentaires dans lesquelles qu'on utilise quand on voit une scène pour faire des inférences. Comment on fait à faire entrer ces structures dans des expressions de la langue naturelle? J'essaie de vous montrer que ce n'est pas une chose aussi simple que ça. Il y a une question plus profonde. Si on regarde les traitements sémantiques qui sont donnés par ce type de situation, par des théories récentes, on voit qu'en fait, peut-être dans cette théorie, cet ou et si tous, cet disons, élément logique qu'on a l'habitude de voir parce que ce sont des choses qu'on étudie en logique, en fait, peut-être qu'ils ne sont pas là, mais les opérations élémentaires sont différentes. Les vraies primitives de la pensée pourraient être des choses pour lesquelles les ou, les si et la leur sont effectivement dérivées. Et on est en train de chercher de trouver des raisons sémantiques pour étudier exactement les types de structures que les sémanticiennes pensent qu'elles sont nécessaires pour interpréter la langue naturelle une fois qu'elle est exprimée avec des mots. Comment ils sont apprises? Et plus en général, pourquoi est-ce qu'on a ces structures logiques? De où elles viennent? Pourquoi, un certain moment de l'évolution, on a complexifié la structure de notre pensée pour avoir ce type de capacité d'inférer des choses qu'on ne voit pas? Ça, c'est la scène que je vous ai présentée. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir, peut-être avec les méthodes que Stanislas a tellement décrites de façon élégante, décrire qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux, dans cette cascade de représentations différentes, dont une est logique et autres sont des processus rationnels, mais non nécessairement logiques. Voilà, donc j'ai essayé de vous convaincre que quand on regarde une structure extrêmement élémentaire comme celle-ci, les nourrissons préverbaux, avant de pouvoir parler, font ce type d'inférence de façon spontanée. Ils n'ont pas besoin d'un but, ils n'ont pas besoin d'être surpris, ils les font parce qu'ils regardent la scène, ils cherchent de make sense of the scene, que ce moment d'inférence peut être détecté au moins par des marqueurs comportementaux assez précis, comme par exemple la dilatation pupillaire, que la stabilité de ces marqueurs entre adultes et enfants suggère que les processus de base sont essentiellement inchangés et que peut-être cette capacité de raisonner logiquement sur des scènes est la base du sens intuitif des probabilités que j'essayais de montrer que les enfants ont très tôt. Et peut-être ça, ça nous donne quelques idées sur l'origine de la pensée rationnelle et donc sur les problèmes fondamentaux que je voulais découvrir, c'est-à-dire comment on fait à trouver solution à ce problème ou à ce problème. Bien, maintenant, on ne le sait pas, mais au moins on sait que peut-être il faut chercher un espace de cette résolution des problèmes dans la capacité élémentaire de voir une scène et de raisonner logiquement sur cette scène. C'est ça qui prédispose l'enfant à pouvoir après formuler des hypothèses et réaliser cette attitude proto-scientifique qui caractérise notre espèce. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Luca, cet exposé tout à fait fascinant sur la logique mentale à un âge où on ne l'attend pas. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche, oui. Donc, on va pouvoir en discuter, on va prendre des questions. Je vais peut-être commencer par une question. Tu as mentionné un moment qu'il y avait deux visions possibles. Il y a une vision de Dieu qui joue au dé et qu'on simule mentalement un certain nombre de tirages, en fait, et on arrive à déduire les probabilités ou à peut-être à tirer des inférences logiques. Et puis l'autre version qui est celle d'un langage de la pensée logique dans lequel on peut prédire à l'avance sans spécialement simuler. Et alors dans la première expérience de Science que tu nous montrais, c'est plutôt la version de la simulation qui est en jeu. Les bébés sont capables de simuler une scène et de voir quel objet a le plus de chances de sortir. Ils simulent un mouvement brownien ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que cette idée de sampling pour le raisonnement bayésien est assez courante maintenant. Cette idée que le cerveau fait un sampling rapide des hypothèses, un échantillonnage. La question, c'est pour la deuxième expérience, est-ce que cette interprétation-là ne peut pas aussi, pour le deuxième type d'expérience, celle de disjonction, ne peut pas aussi intervenir? C'est-à-dire que l'enfant ferait non pas de la logique, mais du suivi des objets. Je n'ai pas parfaitement compris comment cette hypothèse était exclue. Enfin.
Oui, donc il y a deux choses à dire. La première, c'est... C'est une réponse longue. C'est qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'on a une simulation mentale? Il y a des façons de l'interpréter, qui c'est de dire effectivement on a un modèle physique dans notre cerveau qui en fait produit cette ou à différence de ça, on pourrait dire qu'on n'a pas une simulation mentale comme ça. C'est vraiment un script qui on fait passer dans lequel on dit ben, parce que il y a cette distribution, je pense que l'objet doit être là-bas. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire de penser que quand les enfants prédisent quel objet sorte, il y a une simulation mentale qui n'a pas en elle-même une composante logique d'expression de ce qui se passe, des descriptions de la scène dans laquelle il y a des choses qu'on simule, donc on les fait rentrer, il y a des choses qu'on fait tomber. D'accord ? Et ça, on peut les voir si on regarde les théories bayésienne, plus, disons, sophistiquée, les théories dans lesquelles on prédit, non pas, disons, une simulation tout simple, mais on prédit si une théorie est supporté ou n'est pas supporté par l'évidence, parce que ce type de théories ont complètement une logique explicite dedans. La question fondamentale, c'est comment on peut, est-ce qu'on peut faire sens ou est-ce qu'on peut, on est obligé d'utiliser certaines parties, disons, des facteurs logiques, même dans une théorie de la simulation. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est modulo, ce que je t'ai dit. C'est une question partiellement empirique. La question, c'est comment on peut prendre un réseau et le faire de sorte qu'on arrive à prédire ce que nous on prédit, ce que nous on trouve du point de vue de la, de la dilatation pupillaire, par exemple. Et on est en train de travailler là-dessus et on est parti de façon élémentaire. Donc, on a commencé à prendre des modèles élémentaires des neurones et on a essayé de voir si on a quelques façons dans lesquelles, en entraînant des réseaux de neurones de plus en plus complexes, on arrive à générer notre résultat. On est en train de travailler là-dessus. Et les résultats, pour l'instant, c'est que la complexité minimale d'un réseau de neurones qui puisse arriver à prédire les données comportementales que nous on a, ce n'est pas élémentaire et donc c'est vraiment une complexité telle pour laquelle la structuration interne nécessite ce que nous on décrirait des processus linguistiques.
Je crois que c'est la même conclusion, d'abord je suis d'accord avec cette conclusion, et je pense que c'est la même conclusion à laquelle arrivent Noah Goodman, Josh Tenenbaum ou Steve Piantadosi, c'est-à-dire qu'il y a une simulation mentale, il y a un modèle mental, mais ce modèle mental est informé à très haut niveau par des principes logiques, un petit peu comme le langage qu'il faudrait pour décrire une scène dans un langage informatique, lorsqu'on cherche à décrire des objets qui tombent, on a un niveau de description qui est très abstrait, et dans lesquels il y a une sorte d'équivalent de la logique, si je comprends.
Disons que je pense que j'ai eu la chance de parler à vous, vous avez eu la chance d'avoir l'exposition, c'est l'avantage de travailler très peu comme j'ai fait par rapport à Stan, je vous ai exposé toute la science sur les sujets qui existent, parce que ce qui existe, c'est exactement ce que je vous ai présenté, pas plus, pas moins. Donc, on ne sait pas. Ça, c'est, il y a toute une série de questions pour lesquelles je pense que il faut continuer à faire des expériences avant de savoir quel est le modèle qui peut plus. Donc, on n'a pas la base de données, la masse de données pour lesquelles it makes sense de dire bon, on a dans cette théorie parce que bon, finalement il faut faire une dizaine d'années de recherche et après on ne sait pas.
Merci beaucoup de ta présentation.
Merci à vous.